c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de recevoir l'équipe du film L'école est à nous. Alexandre Castagnetti va arriver d'une seconde à l'autre, accompagné de Sarah Souko, l'actrice principale, et de Gabin Joyeiro. On va parler évidemment de ce film qui sort mercredi dans les salles avec cette joyeuse équipe. Nous aurons également le plaisir de parler d'Ici tout commence, votre série quotidienne avec Aurélie Ponce et Julie Sassouste, qui seront avec nous, les interprètes de Salomé Dekens et de Anaïs Grimbert seront avec nous. Oria Benabé sera également avec nous, alias Betty dans Plus belle la vie. On va commencer dès cette semaine à mettre à l'honneur les comédiens de la série avant la fin de celle-ci le 18 novembre prochain. Et puis en fin d'émission, petite découverte musicale cette semaine avec Petit K. Vous en avez peut-être entendu parler cet été. Il a sorti un très bel album le 10 juin dernier que je vous conseille. On en parle et on vous fait découvrir sa musique en fin d'émission.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné pour ces vacances de la Toussaint. Eh bien, on est très heureux d'accueillir l'équipe de L'école est à nous, avec Alexandre Castagnetti, le réalisateur, qui est avec nous. On l'a suivi sur Tamara. Eh bien, on est là pour L'école est à nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Eh bien, merci d'être avec nous aussi. Sarah Souko, qui est là également, qui avait sorti un magnifique film. On a eu la chance de t'avoir, Sarah, pour Les Éblouis, que tu avais réalisé, qui était absolument formidable comme film. Et là, on te retrouve dans le rôle principal de Virginie. Une prof aux méthodes un peu, eh ben, on va dire, pas commune, et qu'on va détailler dans un instant. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et t'as ramené un de tes élèves. Celui qui joue Jonathan, c'est Gabin Joyeiro qui est avec nous. Bonjour Gabin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Alors L'école est à nous, ça tombe vraiment super bien que ça tombe en pleine vacances, puisque ça raconte l'histoire d'une grève dans un collège précisément. Et donc ben Virginie, nouvelle prof justement, bien va décider de se porter volontaire pour aller accompagner les élèves qui viennent malgré la grève, et va décider contre toute attente de leur dire, ben écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. Et on va s'apercevoir très vite que quand on laisse les enfants laisser libre cours à leur imagination, eh bien on en ressort de bien belles choses. J'ai bien pitché Alexandre?
Eh oui, c'était super, c'est très joli. Donc c'est une expérience que vous allez vivre en allant voir ce film. Vous allez être plongé dans cette expérience. Voilà, suspense, que va-t-il se passer?
Comment t'as eu l'idée de cette histoire, Alexandre?
D'abord, j'ai eu envie de faire un film sur l'éducation. C'est un film que j'ai fait parce que je voulais réfléchir à ce que c'est qu'apprendre, comment prendre du plaisir à apprendre, et donc du plaisir à enseigner. Voilà, ma maman est enseignante. Je voulais aussi faire un film qui rend hommage à la relation enseignant-élève. Et puis, moi, je suis papa. J'ai deux ados de 12-15 ans. Donc, voilà, j'ai voulu réfléchir à tout ça. Et puis ensuite, je me suis inspiré avec ma co-scénariste Béatrice Fournera de beaucoup de recherches, de documentation. Je travaille avec des chercheurs, notamment François Tadéhi, qui est un chercheur en éducation. J'ai rencontré beaucoup de profs. Donc tout ce que vous allez voir dans le film qui paraît une douce folie, en fait, ça existe. Ça existe un petit peu en France, pas mal à l'étranger, dans des pays entiers parfois. Et ça fonctionne. Donc voilà, j'ai voulu aussi que le film soit un message positif sur l'éducation et un espoir pour tout le monde.
Pour la jeunesse et pour les enseignants qu'on a bien besoin, effectivement, aujourd'hui. Alors, Sarah, quand t'as lu justement le scénario et quand t'as proposé peut-être ce rôle de Virginie, tu t'es dit quoi?
Je me suis dit, génial, quelle chance de pouvoir le jouer, parce que
J'ai tout de suite aimé sa particularité. En fait, c'est une prof qui est spéciale, qui, on le comprend dans le film, vous le verrez dans le film, a vécu des choses un peu difficiles, et donc sa manière de s'être un petit peu protégée, c'est dans une espèce de carapace. Et ce qui est beau, c'est qu'elle va vraiment apprendre contact des élèves. Je pense que c'est plus les élèves qui vont lui apprendre que l'inverse. Donc j'étais trop contente de pouvoir jouer un personnage aussi complexe, aussi intense, aussi riche.
On a l'impression qu'au fur et à mesure d'expérience, d'ailleurs, effectivement, les deux apprennent autant l'un de l'autre, que ce soit les élèves et la prof. C'est vraiment ça qu'on voit, et puis de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire.
Ah oui, il y a un vrai échange qui se fait, et Virginie, le personnage que j'interprète, elle apprend beaucoup auprès des jeunes, elle apprend auprès de leur curiosité, leur manière de penser, que ce soit le flow dont ils parlent à leur manière, que ce soit leur éveil, leur curiosité.
T'aurais rêvé d'avoir gamin, une prof comme ça?
Bah oui, enfin, ils ne rêvent pas de ça, même les intellos rêvent de ça, comme on les appelle.
C'est une expérience vraie, mais il y a aussi des moments drôles dans ce film. Il y a un casting de jeunes comédiens qui est assez dingue, Alexandre.
Bah merci.
Ça joue grave, quoi.
merci pour eux. Ouais, oui, on nous le dit d'ailleurs très souvent, qu'ils sont très naturels, touchants. Des uns comme les autres, il y a vraiment des profils très différents, c'est un groupe complètement hétéroclite, et c'est que des jeunes qui ont presque jamais joué, Gabin a un peu joué, mais pas beaucoup, et la plupart d'entre eux jamais, donc c'est vraiment du casting sauvage, comme on dit, avec des annonces posées dans les collèges, et puis ensuite je les ai rencontrés, voilà.
On a l'impression, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu as réalisé Tamara 1, 2, donc tu as tourné avec beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes gens. On a l'impression que tu aimes beaucoup aussi donner justement la chance aux nouveaux talents et faire découvrir des jeunes pépites de comédiens à travers tes films.
Oui, alors j'ai pas vraiment une démarche de faire découvrir, parce que c'est souvent les histoires en fait que j'adore. C'est-à-dire que je pense que j'ai été marqué par une génération de réalisateurs autour de Steven Spielberg qui mettait au centre des histoires d'ado. Moi, je me suis vachement identifié dans ces aventures incroyables portées par des ados, et je crois que j'ai envie de raconter des histoires aussi comme ça avec des jeunes qui vivent des premières fois, des grandes émotions, qui se posent des questions assez pures. Et voilà, je le remets dans mes films. Donc, je finis par travailler avec des jeunes, hein, mais par contre, c'est génial, quoi. C'est génial parce qu'il y a une envie fantastique. C'est la première fois pour eux. Donc, il y a une énergie très spéciale quand on a comme ça des ados, des enfants.
Ouais, naturel, c'est le premier mot qui me viendrait effectivement à l'esprit pour les décrire. C'est ce qu'on ressent en tout cas à l'écran, et ça transperce effectivement. Même question pour toi, Sarah. T'aurais rêvé à l'école, au collège, au lycée d'avoir une prof qui te dise ça un jour en arrivant le matin?
Ah ouais, j'aurais adoré, ouais. Moi, j'aimais plutôt l'école, hein. C'était pas, j'avais plutôt des facilités, donc c'était, je sais pas si un peu de ceux pour qui c'était simple d'être là et pas compliqué, donc voilà. Mais j'aurais adoré avoir un prof aussi libre et aussi permissif dans le, surtout qui me proposerait quelque chose d'aussi chouette à faire, en fait. Parce que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, le fait de proposer aux élèves de faire ce qu'ils veulent et donc de réfléchir à ce qu'ils sont, ça leur apprend beaucoup. Je pense que j'aurais appris beaucoup sur moi-même.
Virginie, justement, ça va y jouer des tours quand même.
Bah oui, sinon c'est pas marrant, sinon il n'y a pas de film.
c'est vrai, à la fois il n'y a pas de film. Tu t'es bien amusé avec les copains? T'as pris ça comment, toi? Ben, comme du travail, ou t'as pris ça aussi comme un amusement? Tu t'es amusé?
Forcément, c'est du travail, mais ça se transforme en cours de récréation grâce à Oussama Kedam et Sarah Soukou, bien évidemment. Les autres enfants sont trop cool, on se parle encore, honnêtement.
Ah oui?
Ouais. On a un truc sur Instagram qui s'appelle la team Janzé.
Bon, on va écouter la bande-annonce. Vous savez pas, parce que le film, en plus, il sort en pleine vacances scolaires. Alors ça, c'est génial, parce que du coup, tout le monde peut aller le voir en famille, on peut aller le voir à toute heure de la journée, profiter des séances, des fois un peu moins chères aussi, le matin ou l'après-midi. Alors profitez justement de tout ça pour aller voir dès mercredi. L'école est à nous. On écoute la bande-annonce et on revient juste après avec vous. C'est parti.
Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot.
Bonjour. Prépare-toi, parce que les élèves en maths, ici, c'est pas des flèches, hein.
Je vous présente Kevin, c'est les rigolos, genre, mais c'est un jeu mec.
Qu'est-ce qu'elle a, Nabila?
Passez déjà votre temps là, vous notez sur les réseaux sociaux, si votre priorité c'est la bonne note. Je mets 18 de moyenne à tout le monde ce trimestre.
Ça veut dire que même moi j'ai 18, moi.
Ouais.
Et la suite de Chute en écoute la télé, c'est dans un instant. Surtout ne bougez pas, on revient avec Alexandre Castagnetti, Sarah Soukou et Gabin Jouiro.
Bouge pas, Chute en écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. le Talk Show Radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour pour notre spécial École est à nous et on va accueillir eh bien un membre supplémentaire de l'équipe, Béatrice Fournera, qui est co-autrice justement de ce film aussi. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également et de nous rejoindre pour cette deuxième partie de notre spécial L'École est à nous. Alors Béatrice, on a bien compris, on a planté le décor hein, avec Alexandre et Gabin et Sarah, et on a compris aussi que ce scénario surtout c'était écrit à quatre mains. Donc comment ça s'est passé un peu? Comment vous êtes répartis les tâches tous les deux?
Bon, déjà, je sais pas si tu l'as dit déjà, mais on a fait beaucoup de recherches, on s'est beaucoup documenté. Après, c'est un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, à tous les deux, vraiment, pour nos vies personnelles. Enfin, ça nous tenait vraiment à cœur. Donc, comment on se répartit les tâches? Bon, on a l'habitude de travailler ensemble, donc, on brasse les idées. Moi non plus, parce que après, ça prend forme, c'est comme de la terre glaise. Au début, on a juste un petit bout de terre, comme ça, et puis petit à petit, on fait un peu, voilà, bah, après, on discute, et puis on a des idées, il y a des personnages qui arrivent. Une fois qu'on connaît bien notre thème, en tout cas, il y a les personnages qui arrivent, et puis après, on commence à se raconter l'histoire, et...
C'est le plaisir de travailler à deux, en fait. Quand on écrit, c'est vraiment de discuter, de critiquer l'autre, ou de dire ah non, c'est excellent, ça c'est drôle. Ben voilà, en fait, on est comme deux cerveaux qui marchent en même temps, quoi. Voilà.
Alors, malgré tout, il n'y en a qu'à la réalisation dans ce film. Alors, quand on voit, justement, pour la co-autrice que vous êtes, Béatrice, quand on voit les personnages prendre vie sur les rushs, sur peut-être les premières scènes qui arrivent sur le tournage.
Les rushs, ouais, j'ai regardé un peu les rushs et bah c'est magique. Après, en fait, je peux plus me détacher. Maintenant, c'est eux, quoi. C'est plus entre le
c'est une forme physique, quoi.
Ouais, ils ont pris la forme physique et je peux pas me rappeler quelle forme ils avaient dans ma tête avant eux, en fait. C'est terminé. Ce qu'il y avait dans ma tête, j'ai aucune idée. Maintenant, c'est vraiment eux. C'est vraiment eux qui le remplissent, quoi. Puis il y a des petits trucs un peu magiques qui se passent. C'est assez magique parce qu'il y a un personnage qui a été inspiré un peu d'une amie de ma fille. Et le casting, et la gamine, alors qu'Alexandre la connaît pas et que c'est Alexandre qui s'est occupé du casting et tout, et la jeune fille ressemble exactement, donc c'est assez magique parce que c'est exactement, elle vraiment, c'est le sosie de la gamine dont je me suis inspirée.
Moi, je sais pas le raconter parce
ouais,
que
c'est
des affaires privées. Mais
bon, on va parler de vos scènes qui vous ont marqué sur le tournage de ce film, Gabin et Sarah, qui est la scène qui reste en tête malgré tout, quasiment un an après le tournage.
Bah, il y en a plusieurs, mais comme ça, si je devais en choisir une, je dirais la scène où je leur explique ce qui m'est arrivé. Je leur explique un peu ce qui m'est arrivé, ou après la confrontation avec le petit gamin qui la stocke, et voilà, c'est une scène assez chouette que j'aimais faire.
Ah oui, elle est prenante, elle cache, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de cette scène aussi.
Ouais, j'ai beaucoup aimé la jouer, ouais. Mais après, il y en a plein, c'était qu'on a beaucoup rigolé, on a beaucoup travaillé, on s'est... Non, c'était vraiment chouette, c'est un tournage très très chouette.
Gabin, pour toi, est-ce qu'il y a une scène particulière? Toi, je sens que tu as eu le temps de réfléchir, là, tu vas tout lâcher.
C'est la scène des spaghettis, donc quand je mange une spaghetti en tournant mes oreilles, et on a mis 3 heures, et je pense que ça prend, si on devait faire un bêtisier, il n'y a que ça, vraiment. Sarah qui pleure de rire, les autres qui se mettent à rigoler, ou Sama qui en peut plus. Non, oui, et puis...
Parce qu'ils connaissaient pas la technique.
Je connaissais pas la technique. Voilà. Non, en vrai, il y a une scène qui marque, mais qui n'est pas non plus marquante dans la scène, mais c'est parce que c'est ma dernière journée de tournage, c'était rapide. C'est la scène où, je peux pas trop en dire, mais dans le couloir pour arriver... Ouais, dans l'entrée, où le personnage de Sofia Malika nous montre un truc magique, et voilà. Et du coup, cette scène est marquante parce que c'est le dernier truc où je vois tout le monde. J'ai reçu mon clap, Jonathan, avec justement écrit le pro des pattes derrière.
Je sais que c'est important, un clap de fin pour un personnage. On s'en souvient, en tout cas, ça t'a donné envie de continuer de tourner d'autres choses, même si c'est pas ton premier film, mais est-ce que ça t'a donné envie de continuer?
Bah oui, de toute façon je savais même avant de faire ce film que je voudrais faire ça. C'est tellement bien, enfin.
C'est un petit peu d'antécédents familiaux quand même, faut le dire. On peut l'avouer.
Oui.
Bon, tu embrasseras Damien de notre part.
En plus, papa est dans le film aussi. Enfin, oui, papa est un peu dans le film.
Bah oui, comme ça t'étais pas dépaysé. Ouais. Voilà, puis pouvait surveiller. Bon, Sarah, des projets pour la suite? Où c'est qu'on va te voir 2023? Est-ce qu'il y a des choses télé, théâtre, cinéma qui nous attendent?
Oui, là je vais tourner dans un film belge, d'Olivier Van Neufstadt, qui s'appelle Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Voilà. Créateur de Dick and Eck.
Exactement. Je fais aussi un petit rôle dans une série pour Arte, réalisée par Laetitia Masson. Et puis j'écris mon deuxième film.
Ah bien, c'est un sujet totalement différent. Des éblouis.
Oui, oui, rien à voir, c'est une comédie.
Ah ben voilà, on va rigoler avec toi, puis on sera là évidemment pour t'accompagner quand le projet aura pris forme et que tu viendras le présenter en avant-première chez nous. Voilà. Alexandre, on pense déjà à la suite, il y a déjà un autre film sur les rangs, ça foisonne, raconte.
Oui, oui, il y a un autre film sur les rangs, mais moi je voudrais juste parler de l'école Étano. Donc je voudrais juste finir en disant que on espère vraiment tous que les ados et leurs parents iront le voir et avec leurs profs et qu'ils en discutent après. C'est ce qu'on espère parce que c'est un film qui normalement suscite le débat derrière. Ça peut faire naître quelque chose de concret. C'est un peu l'espoir qu'on a, le rêve qu'on a, c'est qu'en mettant ce débat encore qui concerne tout le monde dans un film, en passant par l'émotion, on puisse provoquer des actions réelles. Vraiment transformer l'école, voilà.
C'est un film qui, j'espère, pourra être projeté dans des écoles qui accepteront en tout cas de pouvoir le montrer à leurs élèves et voir qu'il y a des choses qui peuvent ressortir effectivement, voilà, y compris dans des écoles où des fois c'est parfois difficile. C'est peut-être là même d'ailleurs qu'il faut le montrer en premier.
Oui, oui, c'est un bon moyen de discuter avec ses profs, si on est en vacances, de venir avec le centre, voilà, avec les animateurs et de provoquer une discussion là-dessus qui peut déboucher sur quelque chose vraiment maintenant, aujourd'hui. Voilà.
L'école est à nous, c'est mercredi au cinéma, c'est notre coup de cœur ciné pour cette semaine et puis pour ces vacances de la Toussaint. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir au cinéma. Merci beaucoup Béatrice, merci Alexandre, merci Gabin, merci Sarah. Et puis on vous dit à très vite, on va se requitter avec un extrait et je vous souhaite en tout cas plein d'entrées. À très bientôt.
Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang.
Ils sont contents de venir, c'est bien, non?
Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien.
C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font.
Ah ouais, pas mal. Hein. T'es un génie, en fait.
Vous vous moquez?
Pour de vrai, je suis sérieux.
T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse, allez, tu me les donnes.
Non, lâchez, c'est fragile.
Mais ils me font toucher avec leur projet. On n'est pas dans la France, ça a du talent, merde.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, quel bonheur d'avoir ces deux comédiennes. On parle d'ici d'où, comment, vous le savez, très très régulièrement dans notre émission. Après Florence Coste et Axel Daudier, il y a quelques semaines, eh bien, nous avons deux des héroïnes de cette série. Julie Sassoust qui est avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Qui joue le rôle d'Anaïs. Et puis on a aussi, elle était là avec nous en septembre pour Champion, Aurélie Ponce. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et c'est la première fois en vrai, Aurélie. On s'est eu plusieurs fois au téléphone. Et on a dit, on espère se voir quand même un jour en vrai. Bah, quel bonheur, en tout cas, de vous avoir toutes les deux. Surtout que ces dernières semaines, c'était à couteau tiré quand même, hein, entre les deux personnages.
Oui, c'était un petit peu musclé, mais c'est bien, ça change. Et je pense que le public apprécie aussi de voir d'autres pans de l'amitié de Salomé et Anaïs.
On sent que cette guerre entre Salomé et Anaïs, ça va pas durer. On sent vraiment que l'amitié est plus forte que tout entre Anaïs et Salomé quand même.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui ont un petit peu peur, qui nous ont dit mais c'est pas possible, on peut pas détruire cette amitié, elles sont trop belles ensemble, voilà, on veut garder espoir pour qu'il y ait des couples ou des amitiés qui durent vraiment. Et effectivement, ça l'orage est vite passé, ça n'a pas duré.
La chose très maligne de la production, c'est pour pouvoir arriver à vous garder 2 ans de plus, c'est d'avoir créé ce master qui permet de pouvoir justement garder ses élèves 2 ans supplémentaires après la 3e année. Et donc là, on voit les personnages évoluer de façon un peu plus professionnelle, du coup.
Oui, exactement. C'est l'occasion aussi pour les élèves de pouvoir créer leur propre identité culinaire et de pouvoir se développer, voilà, dans le milieu de la cuisine et pourquoi pas monter leur propre restaurant.
Alors, les dernières semaines ont été énormément basées sur le personnage d'Anaïs, hein, justement, Julie, avec évidemment ce qui a pu se passer. On a découvert que tu avais un frère et on a découvert aussi du coup ce qui s'était passé, ce que David cachait ces dernières semaines. Il faut dire qu'Anaïs a été beaucoup sur le devant de la scène.
Hein. Ouais, c'était très intense, mais c'était vraiment super. Et puis ça a permis de montrer d'autres facettes du personnage d'Anaïs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé dans sa vie. Et voilà, entre l'embrouille avec Salomé, toutes ces découvertes-là, ça a permis de faire une chouette intrigue qui permettait d'en découvrir un petit peu plus sur le personnage.
C'est un succès incroyable, Ici tout commence. On l'a vu au Festival de la Fiction Télé de La Rochette, c'était absolument dingue, c'était une émeute partout où vous passez. Le succès, il est fou sur cette série. Et ça a été rapide. Donc ça va mettre une notoriété qui est soudaine, qui peut être des fois particulière à vivre, Aurélie.
Oui, c'est vrai que ça a été un gros changement de vie. Hein. Moi, personnellement, c'est vrai que je viens d'un petit village de Provence, voilà, tout tranquille. Et c'est vrai que ces deux dernières années, 2 ans et demi, ont été un gros changement dans ma vie. Ça a été très intense, une pression un petit peu avec danser avec les stars, etc. Et ça change beaucoup. C'est vrai qu'on va plus trop faire ses courses. sans se faire filmer ou des choses comme ça, mais bon, après c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'amour aussi et donc c'est en même temps c'est une super expérience. Et ce qui est super, c'est que en fait tous les gens d'ITC on a découvert ça ensemble. En fait, on est arrivé, on est parti de rien et puis on a vraiment eu ce changement de vie, ce succès tous ensemble. Et ce qui est super, c'est de voir qu'on peut tous se soutenir et qu'on est très très proches. Ça nous a vachement rapprochés, quoi.
Non, je rejoins totalement ce que dit Aurélie. C'est vrai que c'est un sacré changement auquel on n'est jamais trop préparé, mais voilà, comme dit Aurélie, on reçoit beaucoup d'amour et on est très heureux de pouvoir faire plaisir aux gens tous les soirs à 18h30 et tout l'amour qu'on reçoit, c'est très beau.
Pour les fans avertis de la série, Julie, cet été, il y a eu une intrigue où tu étais, Aurélie, évidemment, où tu as retrouvé un comédien qui t'avait quand même séquestré dans Plus belle la vie. Et c'était assez dingue. Comment ça s'est passé, ces retrouvailles?
Moi, j'étais hyper contente de retrouver Cyril parce qu'on s'était super bien entendu sur le tournage de Plus belle. Et bon, même si voilà, les téléspectateurs avaient peut-être l'impression qu'on s'aimait pas du tout, mais en fait, non, c'est vraiment quelqu'un de super. Et quand je l'ai vu, j'étais vraiment hyper heureuse de le retrouver, de pouvoir tourner avec lui. Et il s'est super bien intégré avec tout le monde, donc c'était vraiment génial, ouais.
Aurélie, quels sont les conseils que tu as donnés un peu à Thomas, qu'on vient de voir dans Danse avec les Stars? Est-ce que tu as donné des petits conseils avant qu'il parte pour cette aventure dingue?
Ouais, donc à Thomas, je lui ai dit, si j'ai bien dit quelque chose, c'est de pas trop réfléchir.
Comment tu l'as vécu, toi?
Moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de très, disons, comme un peu un tsunami, quoi. Beaucoup d'informations, beaucoup, un gros challenge sportif. C'était 8 heures de danse par jour, donc de passer de 0 à 8 heures de danse, c'est vrai que c'est un gros choc, mais en même temps, ça a été extraordinaire. Enfin, moi, je retiens ça comme une expérience assez hors du commun.
Alors, les intrigues de novembre qui nous arrivent, les filles, qui va être un peu au cœur de ces intrigues, sans trop nous en dire, évidemment, puisqu'on va les découvrir dans les semaines qui viennent. Je sens qu'Aurélie...
Ouais, il y a un nouveau module qui se crée
Master.
Pour le master, exactement. Après, est-ce qu'on doit révéler ce que c'est? Ça un rap, peut-être pas. Hein.
Peut-être laisser la surprise aux téléspectateurs, je pense.
Prof, voilà, ça va être un nouveau module très intéressant, un nouveau pan de la cuisine en tout cas.
Et on termine par vos projets en dehors d'ici tout commence, parce que ça a ouvert un peu des portes. T'as fait Champion, toi, par exemple, qu'on a vu en septembre dernier, Aurélie. Mais justement, est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses, du coup, dans les semaines à venir?
Alors, dans les semaines à venir, non, en tout cas pas pour ma part, mais ITC demande aussi beaucoup de temps. Mais je pense que l'année sera plus fructueuse que celle-ci l'année prochaine. Voilà.
Ah, il y a des projets qui se dessinent là, je le sens. Tu peux pas tout dire encore, mais tu reviendras. Tu reviendras comme ça, Aurélie.
Moi, pas pour l'instant non plus. On est à fond avec ITC.
Eh ben, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses, les filles. Et on se retrouve, c'est tous les soirs à
18h30. À bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue à parler de Plus belle la vie. La fin approche tout doucement et on met nos personnages voilà à l'honneur pour ce final, avec celui de Betty ce coup-ci, qui on a vu de bien belle quand même ces derniers mois, interprétée par Auria Benabé, qui est justement notre invitée. Bonjour Auria.
Bonjour.
Je me souviens que tu venais d'arriver dans la série. On a été une de tes premières interviews radio sur la série. Et franchement, qu'est-ce que Betty en a vécu des choses pendant un peu plus d'une année sur la série, hein?
Bah écoutez, elle en a vécu des belles et des pas mûres. Mais je pense que c'est un personnage haut en couleur, avec une grosse palette de jeux. Et c'était formidable de jouer Betty Solano, vraiment.
Qu'est-ce que tu y as amené de toi, de Auria, dans ce personnage de Betty?
Je pense que j'ai amené un peu d'hypersensibilité à mon personnage, parce que il faut savoir que je suis hypersensible aussi, et donc je lui ai apporté ça, et puis je pense que je lui ai apporté plein d'autres choses et qu'elle m'a apporté aussi plein d'autres choses, donc on a fusionné.
Alors, il y a eu cet épisode sur les violences avec Kylian aussi, qui a été très forte à jouer. On sent que Betty est perdue et malgré tout voilà, elle se raccroche. C'est quelqu'un qui est pas du tout protégée par ses parents. Elle est complètement livrée elle-même, hein, en quelque sorte, hein.
Exactement, c'est une petite jeune femme qui est complètement abandonnée entre guillemets par ses parents. On sent quand même que ses parents quand même l'aiment, mais ils sont pas du tout protecteurs, ils sont plus animés par leur propre vie que par celle de leur fille. Donc forcément, elle se retrouve un peu dans des situations un peu de solitude, et puis avec la solitude vient les bêtises et tout ce qui arrive là par la suite, ce que vous allez découvrir.
Ouais, c'est quelque part des appels de détresse qu'elle lance en faisant toutes ces bêtises. Mais elle en a vécu évidemment beaucoup en un an, et dans cet épisode final, puisque tu es jusqu'à la fin de la série le 18 novembre prochain. Alors c'est passé un peu partout les jours, on sait que Betty va se marier. Mais voilà, mais avec qui? Parce que voilà, Kylian, Noé, Kylian, il y a toute une histoire entre ces personnages qui s'est nouée ces derniers mois.
Exactement, bah après je pense qu'on va quand même garder le suspense, mais c'est vrai que Betty termine par se marier avec, je pense, l'amour de sa vie.
Auréa, est-ce que tu te souviens de ton premier jour de tournage?
Je me souviens, j'arrivais pas trop à sortir les mots de ma bouche parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de monde sur le plateau et que c'était pas qu'une petite équipe. C'est même les décors, ils sont très très beaux, très bien fait, et c'est hyper réel en fait. Donc c'est super, et puis même ce bar du Mistral si emblématique, il est dingue quoi, il est super bien fait. Donc je suis assez contente d'avoir fait cette expérience.
Comment t'as vécu ce clap de fin, toi, à titre personnel?
Moi j'ai très très bien vécu, sachant que c'était dans la suite logique pour moi, parce que je devais arrêter au bout d'un an, et au bout d'un an la série se termine. Donc honnêtement, je pars sans regret et avec beaucoup d'expérience, et je pars vivre de nouvelles aventures.
Alors justement, tu vas être au cinéma l'été prochain?
Au cinéma, et cet hiver je tourne une série Netflix. Ouais, et puis dans, je dois pas le dire, mais dans quelques semaines j'ai rendez-vous avec Abdelatif Kechiche. Donc on a de beaux projets qui arrivent. Je vais pas tout dire maintenant, mais on en laissera un peu pour plus tard.
Et puis tu reviendras? C'est maintenant dans Chut, on écoute la télé, t'es chez toi maintenant.
Bien sûr, mais on est plus sur du cinéma quand même.
Écoute, on a hâte de te découvrir évidemment dans plein d'autres aventures. Et on te dit à très très bientôt, Auréa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça reste une expérience pour moi formidable et inoubliable. Et j'ai appris énormément de choses. J'ai appris tous les corps de métier dans cette série-là.
C'est une école incroyable.
Et maintenant, je pense qu'on peut arriver sur n'importe quel plateau et faire le taf parce qu'on est prêt. On est prêt, on sait qu'on doit être là, on sait qu'on peut bosser assez rapidement. Voilà, on a plein de palettes de jeux à dévoiler et à continuer de travailler, donc c'est excellent.
Merci beaucoup.
De rien, merci.
Et à très bientôt. Notre coup de cœur télé consacré à Addict, la série démarre jeudi, et je peux vous dire qu'elle porte très très bien son nom. C'est très addictif, et on a la chance d'avoir celui qui joue Yvan dans cette série, avec justement Mehdi Sadoun qui est notre invité. Bonjour Mehdi.
Bonjour Alain, comment vas-tu mon ami?
Ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir, surtout qu'en plus je sais que t'es à l'étranger, et voilà, c'était pas facile de pouvoir se connecter ensemble, et voilà, on l'a fait. En tout cas, quel bonheur de te retrouver dans cette mini-série.
Mais moi aussi.
Et franchement, alors d'une, Sagamore Stevens fait flipper, et alors ce couple que tu formes avec Cécile Bois va faire les frais effectivement de ce voisin quand même quelque peu malveillant. C'est un peu ça quand même, hein, l'histoire.
Ouais, c'est un petit peu ça. Cette domination de pervers narcissique, c'est un peu dans la bouche de tout le monde depuis quelques années. Lorsqu'on évoque une relation un peu amoureuse ou alors professionnelle, amicale et tout, puis on sait jamais vraiment comment gérer ces... On est amené à se méfier maintenant de son prochain. Ça peut être un très bon ami, ça peut être quelqu'un, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui. Donc, faut pas devenir parano. mais oui, en fait, pour ce qui est de cette série, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais accompagné d'une magnifique dame qui s'appelle Cécile Bois, en qui j'étais en admiration parce que je la voyais dans Candice Renoir. Et puis pour moi, c'est une grosse référence de la télé. Elle est complètement naturelle, elle est solaire. C'est une personne qui ne vit que pour le bonheur des autres et qui est d'une bienveillance absolue. Et je me suis senti vraiment très bien avec elle. C'était un pari quand même de me retrouver sur une série. C'est la première fois que je fais ça.
Ça t'a plu du coup?
J'étais accompagné vraiment. Bah oui, c'était merveilleux parce que tu sais que moi je choisis un film en fonction de ce que je lis. Tu vois, un film pour moi c'est comme un film ou une série. Hein, c'est comme un jeu de société. Si tu achètes ton jeu de société qui te plaît, ensuite si tu te retrouves avec des partenaires de jeu qui sont magnifiques, l'aventure est magnifique, tu vois. Et ça a été vraiment le cas avec Cécile Bois, Sagamore que j'admirais déjà, je suivais, j'avais vu dans Falco, et puis j'ai rencontré humainement, il est touchant, il est profond, et tu vois, on a partagé beaucoup de temps, on est resté quand même 3 mois et demi ensemble.
Ben oui.
Donc on a le peu tant qu'on se voyait, c'était vraiment en dehors du tournage pour aller manger, parce qu'on était vraiment du matin jusqu'au soir sans pause. Et la force de Didier le Pêcheur, c'est justement de ne pas faire de répétition de jeu pour qu'on puisse vivre les réactions surprises de l'autre dans l'instant, comme si c'était vrai. Donc tout est dans l'instant, dans l'instinct, et tout est vrai en fait. Voilà, Cécile Bois, Sagamore, des enfants magnifiques, Lucie...
Wagenheim et Louis Duneton. Ouais. Et t'as vu, ce qui est bien quand même, c'est que t'as vu, quand tu fais un personnage sur une mini-série comme ça, sur 6 épisodes, t'as le temps de le développer, de le travailler, d'explorer plusieurs facettes d'un personnage.
Ouais, non mais bien sûr, tu sais que les grosses comédies qu'on fait au cinéma, c'est fabuleux. Mais entre guillemets, on est toujours un petit peu frustré parce qu'on elles sont souvent faites par rapport au montage. C'est le montage, c'est le texte qui fait que c'est drôle. Et puis tout est dans le timing absolu pour qu'il y ait du rythme et tout dans une comédie au cinéma. Là, les émotions, on les laisse s'exprimer. On est obligé d'aller au bout, on est dans le vrai, voilà, c'est tout. Moi j'avais envie en fait, de toute façon, d'exprimer un peu d'autres choses avec le temps, avec la maturité, parce que depuis, bon Dieu, les Kaira, il y a quand même 12 ans qui sont passés, depuis j'ai eu des enfants, et puis on vit des choses un peu tout pareil dans les familles, il y a des décès, il y a des départs, il y a tout ça, et toutes ces émotions changent au fur et à mesure des années, et servent souvent pour les séquences qu'on nous demande de jouer dans les films.
Est-ce que t'as une scène qui a été marquante pour toi?
Il y a une scène, moi, qui m'a surprise, parce que, pour le coup, je me suis dit, tu sais, quand t'as un texte devant toi avec un dialogue, une dispute, tu te dis, bon, bah, je vais dire ça, elle va s'énerver là-dessus, moi, je fais ma réplique, elle va me répondre comme ça. Et en fait, au moment de l'action, je me souviens d'une scène où elle était, alors c'était dans l'histoire, elle revenait du restaurant, elle était partie avant moi, et moi, je rentre à la maison, et elle est sur le balcon, et je vais la rejoindre. Et à ce moment-là, moi, dans ma tête, il va y avoir une dispute. Et au moment où je sors ma première réplique, au lieu d'avoir ce tac au tac, elle se retourne et elle met 5 à 6 secondes et elle fait la femme bourrée et prend son temps. Je me retrouve complètement perdu et c'était vraiment les faire chercher de la scène. Si on l'avait répété, c'était mort. Et au moment du coupé, je lui dis, mais tu m'as rendu fou et tout. Et c'était vraiment ce qu'elle cherchait à faire. Et ça a marché. Quand t'as une personne en face de toi qui est vraie, bah, tout de suite, bah, ça fonctionne puisque t'oublies que tu joues. T'as une personne qui joue pas, donc t'es dans le vrai et quand ils disent couper, on dit merde. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben c'est clair. Et puis celle qui va te faire tourner un peu la tête aussi, Mylène John Panoy, a été énorme aussi. Hein. Elle est incroyable. Mylène. T'es vraiment très très bien entouré. Mamed Areski, Laurent Dutch, Aurore Clément, Cécile Rébois. Enfin, le casting est dingue de cette série.
Alors tu vois Cécile avec laquelle j'ai connu. En fait, c'est drôle parce que tu vois que ce soit Cécile, que ce soit Mylène, que ce soit Laurent, je les ai vus par intermittence, admettons tous les 3 ans. Et quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Parce que il y a un truc très important dans l'humain, c'est la simplicité tisse les liens. C'est-à-dire que je sais pas, peut-être que c'était sûrement... Mais d'ailleurs, ça s'est passé entre nous deux, Alain. Je sais pas si tu te souviens, mais la première fois que je t'ai vu, c'est qu'on s'est parlé naturellement. Et je te le dis à chaque fois, j'ai pas l'impression de parler à un journaliste, comme il y a certaines personnes avec lesquelles tu connais peut-être depuis 2 heures. Et tu sais très bien la philosophie de vie qu'il a, les valeurs qu'il a, la simplicité, et tu sais à qui tu parles. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Les personnes sont simples, personne se tire la couverture, il n'y a pas d'ego, et c'est ça qui est très important. Je pense que l'ennemi de l'acteur, c'est l'égocentrie. J'avais vraiment envie de pas décevoir Didier, et j'avais envie de décevoir personne. Et grâce à l'amour de Cécile, grâce à l'amour de tous ceux qui étaient acteurs, leur simplicité, bah finalement, on pensait à l'autre. Il y avait beaucoup d'amour. L'amour, c'est penser aux autres.
En tout cas, je peux te dire que vous allez certainement embarquer les spectateurs et les rendre addictifs, eux, les téléspectateurs, puisqu'ils seront jeudi soir à 21h10 sur TF1 pour découvrir ces 2 premiers épisodes, à ne pas manquer évidemment, de cette nouvelle série événement qui s'appelle Addict. Voilà, on ne la rate pas.
C'est un amour. Je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas si si j'ai trop parlé ou quoi, mais si j'ai bien exprimé les choses, mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'aller sur d'autres, un autre registre, et j'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance de vivre cette expérience.
La série.
J'espère que ça. Oh, bah écoute, je te remercie infiniment. Moi, j'ai rien vu du tout, et je te remercie en tout cas de ton écoute et de la manière dont tu amènes les comédiens et artistes avec toi à s'exprimer, puisque tu le fais vraiment très bien. Alors, je te l'ai toujours dit.
Eh ben merci beaucoup Mehdi. Moi je t'embrasse très très fort et puis j'espère te retrouver très vite dans notre région. Et puis on va se quitter avec la bande annonce de Addict jeudi à 21h10 sur TF1. À très bientôt mon cher Mehdi.
Merci beaucoup Alain. À très bientôt.
Porte-toi
bien.
C'était de la légitime défense. Il préférait nous tuer tous les deux plutôt que de me perdre. Il voulait en finir.
En mettant le feu à sa propre maison,
Madame Marsay, vous allez être mise en examen pour homicide. Cependant, il y a une chose sur laquelle je mets en doute votre parole.
Allez, dans un instant, on parle musique avec Petit K. On vous fait découvrir évidemment cet album magnifique qu'il a sorti le 10 juin dernier. Alors surtout, ne bougez pas, on revient tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Découverte musicale dans Chut, on écoute la télé. Vous en avez peut-être entendu parler cet été et même depuis début 2022, 10 juin. Il a sorti Une vie à la belle étoile. C'est son nouvel album. C'est Petit K qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour à toi.
Salut, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est ce que je disais juste avant qu'on prenne l'antenne en ce moment. Tu as un peu un parcours atypique dans le monde de la chanson. T'étais moniteur de surf, je crois.
Non, j'étais moniteur de ski.
De ski?
C'est l'hiver, ouais. Plus l'hiver et l'été, moi j'ai découvert le surf et la côte, l'océan sur le tard.
Mais tu surfes pas mal.
Je glisse, on va dire. Non, c'est un peu plus facile, mais c'est compliqué en fait d'appréhender l'océan quand on vient de la montagne à la base.
C'est clair. Donc t'es un peu le contraire de Tom Frager. En tout cas, c'est des parcours atypiques et c'est ça qu'on aime aussi dans notre émission. C'est vous faire découvrir ces parcours-là. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans la musique?
En fait, ça a toujours été les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ma mère qui était éminemment mélomane et mon père qui était beaucoup plus sportif. Et en fait, les deux étaient indissociables de ma vie depuis ma tendre enfance, en fait. Donc, je me suis construit vraiment avec les deux. Et le choix ne s'est pas réellement fait à côté de mon diplôme de ski. Je faisais de la musique et à côté de la musique, je faisais du ski et j'essayais de glisser. C'était deux passions et voilà.
C'est deux grandes passions de ta vie, quoi, finalement.
Ouais, c'est juste ça. Et après, au fur et à mesure, ben, quand on y croit, quand on travaille, eh ben, on essaye d'en vivre et on essaye de réaliser un peu nos rêves. C'est un rêve de gosse, en fait, tout simplement.
Et à quel moment t'as senti le déclic, t'as senti que ça prenait et que t'allais pouvoir en vivre de ta musique? Parce que souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de candidats, mais très peu d'élus qui arrivent à vivre de leur musique. C'est aujourd'hui un don du ciel de pouvoir vivre de sa musique.
En fait, c'est le résultat de beaucoup de travail, mais c'était pas vraiment un déclic. C'est plus petit à petit, une succession de petits déclics. Voilà, on fait une scène, on a des retours positifs, on se dit bon, si j'arrive à avoir des retours positifs là, peut-être que si en travaillant plus, je pourrais encore faire mieux, et encore faire mieux, et encore faire mieux. Et au fur et à mesure, en travaillant, bah, on arrive à réaliser un peu plus, et aller plus loin en fait dans la musique. Mais ça se fait pas d'un coup quoi. Ça a jamais été clac, je me lance dans la musique. Ça a jamais été on off.
Alors, Une vie à la belle étoile, c'est l'album qui est sorti le 10 juin dernier. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme sonorité? Comment il a été composé? Avec qui tu t'es entouré? Raconte-nous un peu l'histoire de cet album.
Alors, je suis un grand passionné de la chanson française, comme énormément de français, j'imagine. La langue de Molière m'attire énormément, et puis jouer avec les mots et tout ça, j'en suis fan. Donc très vite, j'ai voulu écrire mes chansons. Voilà, en écoutant un petit peu toute la scène, l'ancienne scène française, enfin voilà, Cabrel, Brel, Brassens, même Souchon, même la nouvelle scène avec Vianney, Boulevard Désert, Gauvin Serre, j'ai écouté tout ça énormément dans mes écouteurs quand j'étais ado et j'ai voulu écrire aussi voilà humblement mes petits morceaux et au fur et à mesure ben de scène en scène me voilà quoi. Donc ça s'est un peu construit comme ça avec des influences chansons françaises éminemment, mais après des influences de rap, de slam, de folk aussi avec les musiques de road trip qui donnent envie de partir en voyage. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu secouer toutes ces influences dans ma gourde là, tac tac tac, et puis voilà, en sortir un album. J'ai essayé de faire ça le plus sincèrement possible.
Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour toi, c'est pas le tout de sortir des albums, mais ce que tu voulais avant tout, c'est pouvoir les défendre sur scène, aller à la rencontre du public, c'est partager évidemment cette musique avec le public.
Ouais, la scène, ça a toujours été très important pour moi, parce que quand on partage nos chansons, on se livre un peu, et si nos chansons et nos mots trouvent un écho dans le public, voilà, on a réussi un peu une part de notre mission, entre guillemets. Donc c'est quelque chose de très addictif, c'est vraiment ce pourquoi j'ai écrit et composé. C'est maintenant défendre cet album en live et aller défendre ça sur des scènes, quoi.
Alors, il y a malgré tout deux saisons dans ta vie. Tu continues à être moniteur de ski un peu l'hiver ou pas du tout? T'es vraiment 100% musique maintenant?
Eh ben.
Tu vas chanter dans les stations de ski finalement?
Ça, je l'ai toujours fait, ça. Ça, je l'ai toujours fait. Mais cet hiver, j'étais encore moniteur. L'hiver prochain, on va voir. Suivant le truc. Là, je viens de sortir un album. Je vais me laisser un peu porter aussi par les concerts. Est-ce que je peux vivre avec? On va voir. Si ça continue, bah, je vais continuer. Et si ça retombe un peu, bah, on ira à rechausser les skis un peu.
Oui, tiens, c'est bien d'avoir toujours deux cordes à son arc, tu as bien raison. Une vie à la belle étoile, on va en faire des découvrir un premier extrait maintenant. Lequel t'as envie qu'on partage avec le public, avec nos auditeurs maintenant?
On va plutôt le titre éponyme, donc du coup de l'album qui s'appelle Une vie à la belle étoile, que j'ai composé en fait avec les gens qui me suivent sur Instagram et Facebook, et où tout le long, pendant le confinement, tout le long d'une semaine, on a créé cette chanson tous ensemble. Et voilà, cette chanson, c'est, je leur dédie en fait à tous ceux qui me suivent. Et donc du coup, ben, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour cet album.
Et ben, on écoute tout de suite Une vie à la belle étoile. C'est Potika, notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé.
Je rêve d'une vie.
Potika, aujourd'hui, qu'on vous fait découvrir, on vous fait découvrir sa musique. Une vie à la belle étoile, c'est son album. Tu as tourné pendant tout l'été dans des festivals. T'es passé dans notre région d'ailleurs, sur notamment le festival à Vaux-sur-Mer près de Royan. Mais t'as plein de scènes, j'imagine, aujourd'hui, qui t'ont déjà énormément marqué depuis ta jeune carrière musicale.
Ouais, ben, à commencer par déjà cette année, il y a eu un gros gap. C'était pour la sortie de l'album. Je devais rien faire à la base, puis on m'a appelé 3 jours avant. On me dit, tu fais la première partie de Patrick Bruel au Palais des Sports à Paris.
Ça va.
Donc là, être face avec une guitare à 5000 personnes et aller défendre ses chansons le soir du lancement de l'album, c'était quelque chose de magique.
Et ouais. Juste avant de rentrer sur scène, t'as regardé Patrick et tu lui as dit, alors, regarde. C'est pas ça que tu lui as dit?
Regarde un peu. Regarde un peu, je lui ai dit.
Vos souvenirs, qu'est-ce qu'il t'a dit?
Franchement, il était super gentil avec moi et voilà, il était de très très bons conseils, super bienveillant. Il m'a même présenté sur scène avant de monter sur scène. Il m'a attendu à ma sortie pour parler, échanger avec moi. Ensuite, on s'est vu après son concert. Donc voilà, c'était une belle claque aussi parce que finalement, il a quand même des années de carrière. C'est très très inspirant de voir ce genre d'artiste qui, avec un public qui leur est fidèle depuis des années et des années. Et ça fait rêver quelque part. Mais voilà, de se dire qu'on a foulé une scène parisienne comme ça, venant un peu de la campagne.
Viens d'où toi, à la base?
Je viens des Vosges. À la base. Et donc du coup voilà, les scènes parisiennes me tendaient pas forcément les bras à la base et là du coup d'avoir pu faire un palais.
C'est des images d'Épinal pour toi, les scènes parisiennes, c'est ça?
C'était un peu ça, voilà, les scènes d'Épinal. Épinal, c'était notre Paris à nous, quoi.
Ouais. Alors cet album, tu as tout écrit, tout composé. Comment ça se passe? Où tu trouves l'inspiration quand c'est comme ça? Il y a des moments précis dans l'année, il y a des circonstances précises dans lesquelles tu trouves l'inspiration, il y a une chanson qui vient comme ça, une mélodie.
Ouais, en fait c'est, je dis souvent que en fait je m'inspire des paysages que je vois et des gens que je rencontre au travers des saisons pour écrire des chansons. Donc c'est super diversifié. Les paysages souvent me donnent envie de grands espaces, de folker la mélodie, de donner de la folk, de l'évasion. Et après les paroles, bah forcément les gens que je rencontre, leur bonne humeur, parfois leurs problèmes, leur insouciance, leur voilà, les sentiments humains, le panel des sentiments humains m'inspire beaucoup. Et donc du coup j'essaye de composer, écrire là-dessus toujours. Donc tout a été écrit, composé par moi sur tout l'album, sauf une chanson qu'on a co-composée pour la BO d'un film de parapente, de d'aventure en fait.
Génial, ouais. Ça c'est super, ça c'est une belle aventure. On écoute un deuxième extrait, lequel t'as envie de nous faire partager là?
Eh ben, je viens d'en parler, donc on peut faire ça. C'est la BO d'un film de parapente et d'alpinisme qui s'appelle Lumdo Kolola, qui se passe au Népal, dans l'Himalaya. Et donc, du coup, l'alpiniste m'a demandé d'écrire la BO. Et c'est un morceau qui s'appelle Vol.
Eh ben, on écoute tout de suite un petit extrait, on revient juste après avec toi.
Inspire et laisse le vent. La fraîcheur te remplir, t'envahir de l'instant. Puis expire tout ce qui au fond brouille tes pensées, brûle tes poumons. Écris, hurle s'il le faut, tout ce qui sous la peau peut rebondir en écho. Et ferme juste quelques secondes les yeux sur tes cernes, que le calme t'inonde. Que le calme t'inonde. Vol, 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 gamin, vol. Lève les voiles et cours et décolle. Vol, 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 gamin, vol. Et déploie tes rêves au-dessus du sol. Hey!
avec Petit K, on parle de cet album, Une vie à la belle étoile. Est-ce que tu as des envies de collaboration future? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu adorerais partager un titre sur un futur album? Si tu avais là une annonce à passer, ça serait qui?
Il y en a beaucoup.
Il y en a tellement.
En fait, il y en a tellement parce que on a tellement une scène musicale française et mondiale est tellement riche, enfin déjà française, je trouve. Un artiste comme Ben Mazuet, moi, m'a énormément inspiré. Donc c'est sûr que voilà, un petit featuring serait incroyable. Ou voilà, même la nouvelle...
Un bonhomme de chemin incroyable, hein. Il fait des collaborations, il écrit pour beaucoup de monde, Ben, et il fait des albums qui sont, il est toujours très très discret, effectivement, dans ce qu'il fait. Il a fait un très beau titre avec Pomme d'ailleurs, que je vous conseille.
Bien sûr, ben en fait il a une carrière que moi qui me fascine beaucoup. C'est-à-dire que il a un public qui lui est fidèle, il remplit à guichet fermé ses salles, mais par contre, ben il est pas forcément très très médiatique. Il a juste la pureté de la scène, la pureté de la musique qui l'accompagne, et ça suffit en fait pour que un public soit fidèle, quoi. Donc ça, je trouve ça très très inspirant. Après Vianney, bien sûr, Boulevard Désert, ça c'est tous des duos que j'aimerais beaucoup, ou même Emma Peters qui est un peu plus scène actuelle maintenant. Donc voilà, il y a énormément de choses, mais je vous en ai cité quelques-uns qui sont dans mes préférés, mais je suis très très ouvert après.
Je dirais franchement, en plus tout ce que tu as dit, c'est quand même de l'accessible parce que c'est des gens qui sont très très ouverts aux collaborations. Qui aime beaucoup justement partager avec les artistes. Je pense à Boulevard Désert, à Vianney, mais voilà. L'album vient de sortir au mois de juin. Il comporte un certain nombre de titres. Est-ce qu'il y a déjà des titres, toi, que tu n'as pas mis encore dans cet album, mais que tu réserves déjà pour la suite? Et est-ce que déjà le prochain est un petit peu sur les rails et pourrait venir dans les années qui viennent?
Alors l'idée, c'est que voilà, pour faire cet album, on a dû mettre 12 chansons dans la boîte, mais moi j'en avais plus.
Et donc il y en a d'avance.
Bien sûr. Et pareil, c'est pas parce que j'ai créé et composé un album et que je tourne maintenant que je n'écris plus. Et donc du coup, oui, bien sûr que oui, j'ai d'autres chansons et j'ai très envie de les partager. Je mets beaucoup d'extraits aussi sur les réseaux parfois pour voir un peu comment ça prend aussi, pour voir un peu la réaction des gens. Il suffit parfois d'un couplet, d'un refrain pour que les gens soient emballés ou non. Donc c'est intéressant. Je suis beaucoup dans l'échange aussi avec les gens qui me suivent, parce que c'est quand même le meilleur guide pour savoir si on est sur les bons rails ou non. Donc voilà, oui, bien sûr que oui, j'ai plein de morceaux et j'espère les partager un maximum.
Ça pourrait sentir la réédition pour la fin de l'année ou pas, avec quelques inédits?
On verra bien.
Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Petit K. On va écouter un dernier extrait de cet album. Lequel t'as envie de nous faire partager maintenant, d'Une vie à la belle étoile, pour terminer?
Moi, je dirais La balade de fin. C'est une chanson, voilà, qui c'est une balade piano-voix, donc très très chanson française, qui s'appelle Pour le mieux, et en fait qui est très feel good et qui veut dire en fait quelque part on essaye toujours dans la vie de faire de notre mieux et pour le mieux, malgré toutes les galères qui nous arrivent, et voilà, ça parle de tout ça, donc je pense que c'est pas mal pour clôturer une interview et pour clôturer un album.
Une vie à la belle étoile, c'est l'album qui est sorti le 10 juin. Petit K, retenez bien son nom, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, et c'était avec toi notre découverte musicale aujourd'hui, avec un grand plaisir pour prolonger l'été que l'on a passé ce moment ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous, merci à toi, et à bientôt, à tout bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Encore de belles surprises vous attendent avec Gaïa West. Elle sera notre invitée à l'occasion de la sortie de Marie-Antoinette sur Canal+. On aura le plaisir de parler de Plus belle la vie. On arrive bientôt au terme de la série. À cette occasion, Caroline Rioux et Léonore Sarrazin seront nos invités exceptionnels. On va dérouler jusqu'au 14 novembre des émissions exceptionnelles.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.